Cher ami, bonjour. C'est un privilège pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. De temps en temps, je reçois un courrier de la Croix-Rouge qui me dit que leur capacité d'alimenter les hôpitaux en sang est menacée par des réserves qui diminuent plus rapidement qu'elles ne se constituent. Bien sûr, on me demande si je pourrais les contacter dès que possible afin de participer à une collecte de cette vie qui coule dans nos veines. Dans le chapitre 17 du Lévitique que je suis en voie de terminer, il est question, entre autres, de beaucoup de régulations concernant le sang des animaux immolés en sacrifice. C'est aussi dans ce même passage qu'il est expressément dit « La vie de toute créature est dans le sang. » Pour avoir ignoré ce principe, un nombre considérable de personnes sont mortes parce qu'on pratiquait sur elles des saignées pour un oui ou pour un non. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit la dernière fois, que George Washington, le premier président américain, est décédé. Le rapport étroit entre le sang et les fonctions vitales est maintenant scientifiquement bien établi. De plus, la science a découvert que chaque individu a un sang spécifique et unique, et c'est toujours celui-là même que nous fabriquons, vous et moi, tout au long de notre vie et qui se refait perpétuellement semblable à lui-même. Je continue maintenant le texte du chapitre 17 jusqu'à la fin. Toute personne autochtone ou immigrée qui mangera une bête morte ou déchiquetée par une bête sauvage, lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et restera impure jusqu'au soir. Ensuite, elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne se baigne pas, elle sera tenue pour coupable de sa faute. Versets 15 à 16. Cette défense est la conséquence de la précédence. Dans tout animal mort ou déchiré par les bêtes sauvages, il reste toujours une partie du sang, et le manger, ce serait infailliblement en consommer une partie. Cette baignade et lavage de vêtements s'appliquent à une faute involontaire lorsque, initialement, le fautif ignorait dans quelles conditions la bête était morte. Dès qu'il s'aperçoit de son erreur, il doit alors se purifier. Cette insistance, sans cesse répétée, de se laver est peut-être barbante, mais toujours d'actualité. En ce début du troisième millénaire, un prof d'une université de Toronto a étudié les effets de se laver les mains parmi la population étudiante de la ville. Voici la conclusion qui est apparue dans le journal canadien du contrôle des maladies infectieuses. Il dit ceci. Ceux qui se lavent les mains plus de 7 fois par jour sont 4 fois moins susceptibles de tomber malade que les autres. Fin de citation. Comme quoi ces lavages rituels et hygiéniques prescrits par la loi de Moïse étaient et sont encore à prendre très au sérieux. Une fois établis en Palestine, la défense pour les Israélites de manger un animal mort dans des circonstances douteuses est maintenue dans toute sa rigueur, parce qu'ils sont le peuple consacré à Dieu. Par contre, il sera permis aux Hébreux de donner ou de vendre la bête morte ou déchiquetée aux étrangers pour que eux puissent la manger. Maintenant, nous sommes arrivés au chapitre 18 du Lévitique, qui donne des précisions concernant le 7e commandement de la loi, « Tu ne commettras pas d'adultère », et qui va mettre les points sur les « i » concernant les interdits d'ordre sexuel. Jusqu'à présent, dans ce livre, il a surtout été question de règles de purification rituelle, ainsi que de celles qui régissent la vie religieuse du peuple d'Israël. À partir d'ici, et pendant 3 chapitres, il va y avoir un certain nombre de passages qui vont développer les 10 commandements sous leurs aspects pratiques et qui vont dicter la vie morale et les mœurs du peuple de Dieu. Voilà donc un sujet qui me concerne de plus près. Nous vivons à une époque, surtout en Occident, où les fondations morales de la culture judéo-chrétienne ont été démantelées et à peu près supprimées. Maintenant que les notions du bien et du mal ont été réduites à peu de choses, tout le monde, ou presque, prétend avoir l'autorité voulue pour établir les règles du jeu, à commencer par soi-même, bien sûr. Les magazines de vulgarisation à grand tirage parlent des derniers tabous qui doivent tomber. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez et vous aurez fait mouche. Et même si vous êtes personnellement horrifié, c'est bien de cela qu'il s'agit. Petit à petit, l'impensable devient acceptable, puis se banalise. Ce chapitre 18 commence par remettre les pendules à l'heure. À trois reprises, dans le préambule, il y a ces paroles « Je suis l'Éternel ». Ce qui bien sûr sous-entend « C'est moi et moi seul qui décide les règles de vie ». En effet, c'est Dieu qui fait les lois. Si je ne veux pas les suivre, cela me regarde, mais ne change rien. C'est toujours Dieu qui donne les règles de la vie. À ce propos, si je peux créer un univers entier, un système planétaire comprenant un soleil, une lune, quelques étoiles, alors j'ai aussi le droit de donner des commandements. Mais tant que je vis dans le monde du Créateur, tant que je respire son air, que je profite de son soleil, que je bois de son eau, que je marche sur sa terre, sans même lui verser un loyer, pour tout cela, je ferais mieux de suivre ses directives. D'accord, je ne convaincrai pas le sceptique, puisqu'il est son propre Dieu qui établit ses propres règles. Néanmoins, si je choisis d'enfreindre les commandements de Dieu, il faut bien que je sache que je fais cela à main levée, pour ainsi dire. C'est un acte de rébellion, et donc je le fais à mes risques et périls. L'Éternel désire que son peuple lui obéisse, non pas simplement parce que c'est la loi ou par sens du devoir, mais surtout parce qu'il a une relation d'alliance avec lui. La deuxième raison pour laquelle Israël, tout comme moi d'ailleurs, est sommé d'obéir est donnée à la fin du chapitre 20 du livre du Lévitique en ces termes. « Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. » Fin de citation. Dieu dit donc en substance deux choses. « J'ai tous les droits » et ma législation est sacrée. Le texte commence en parlant de la sainteté dans le mariage. Je parle du texte du chapitre qui nous occupe. Alors que je prononce ces paroles, je me rends compte combien elles peuvent sonner vieux jeu à certains, désuètes et choquantes pour une génération où tout est bon. La perspective de la vie selon le point de vue des Écritures est extrême. En cela, dans une société où tout ce qui est démesuré et outrancier à bonne presse, que ce soit le sport ou d'autres choses moins louables, les textes sacrés ont non seulement leur place, puisqu'ils sont extrêmes, mais ils sont le remède parfait et la solution idéale pour celui qui a tout vu et tout fait, donc en d'autres mots, pour quiconque est blasé. Ce texte que nous allons maintenant aborder, après une introduction faite de considérations d'ordre général, va énumérer une série d'unions illicites, puis d'actes abominables, et se terminer par une exhortation pressante à ne pas imiter les habitants du pays de Canaan qui pratiquaient ouvertement toutes ces dépravations. Je commence à lire ce chapitre. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. Vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances. Vous les appliquerez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. Versets 1 à 5. Les Israélites venaient tout juste de sortir du pays d'Égypte, où en plus de l'idolâtrie, ils avaient les mêmes mœurs que leurs voisins autochtones. Ils doivent donc abandonner la manière de vivre égyptienne, la manière de vivre du milieu duquel ils sont sortis, mais également ne pas adopter celle des Cananéens dans le pays desquels ils se dirigent. Le peuple de Dieu est pris entre l'enclume et le marteau. Six fois dans ce chapitre, l'Éternel avertit Israël de ne pas suivre l'exemple de ces deux nations. La corruption sexuelle des Cananéens était légendaire, même aujourd'hui, à Los Angeles, en Californie, pourtant la capitale mondiale de la pornographie et de la perversion sexuelle, ces gens, ces Américains, sont des enfants de cœur au regard des Cananéens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Éternel va en grande partie les exterminer. Jusqu'à présent, il a souvent été question d'être retranché du milieu de son peuple. Ici, dans ce texte, apparaît un nouveau concept, celui de vivre grâce à l'obéissance aux ordonnances et aux lois de l'Éternel. Ce principe est double. Il renferme à la fois la notion de prospérité terrestre et également de salut, c'est-à-dire l'obtention de la vie éternelle. Cette petite phrase, vivre grâce à l'obéissance aux ordonnances et aux lois de l'Éternel, souligne que la loi est bonne pour l'homme. En effet, son respect favorise la vie sous toutes ses formes, car Dieu crée les conditions nécessaires pour que les humains puissent bien vivre, et ces conditions se trouvent dans sa loi. En second lieu, la mort étant la sanction de la transgression de la loi. Celui qui lui obéirait pleinement aurait donc un plein droit à la vie tout court et à la vie éternelle. L'apôtre saint Paul, dans le Nouveau Testament, citera ce même texte pour démontrer l'impossibilité d'être considéré juste par Dieu dans le système de la loi de Moïse. Son raisonnement, celui de l'apôtre Paul, est très simple. La loi stipule que pour avoir droit à la vie, il faut l'accomplir dans sa totalité. Celui qui la transgresse ne peut donc pas obtenir la vie éternelle. Il faut en effet se souvenir que la possibilité d'une réparation pour des fautes volontaires était très limitée sous l'Ancienne Alliance. Si on ajoute à cela que selon les Écritures, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés, on mesure alors que la loi de Moïse à elle seule laissait le coupable sous la condamnation à mort et donc dans l'impossibilité d'obtenir la vie éternelle. Je continue le texte. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente, je suis l'Éternel. Verset 6. Le texte va maintenant entrer dans les détails de ce qu'on a coutume d'appeler le tabou de l'inceste et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre parmi les anthropologues et sociologues en particulier. En Égypte, non seulement les unions légales entre proches parents étaient fréquentes, mais il en était de même de l'inceste. Dieu condamne les mariages formels, connus ou secrets, ainsi que les actes isolés entre même sang. Je continue le texte. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère, puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père, ce serait porter atteinte à ton père. Versets 7 à 8. En découvrant la nudité de sa mère, on porte atteinte à l'honneur de son père. Cette défense n'était pas du tout superflue, car de pareilles unions étaient permises parmi des peuples puissants comme les Perses, les Mèdes, les Hindous et les Éthiopiens. C'est la même interdiction lorsqu'il s'agit d'une épouse de second rang, une concubine, qui n'est pas la mère de celui auquel s'adresse ce commandement. Dans le premier cas, ou lorsqu'il s'agit de la femme légitime du père, c'est la peine de mort qui est édictée. Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit d'une simple concubine. Cela sera d'ailleurs précisé plus loin dans le livre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce problème se trouvait dans une des églises fondées par l'apôtre saint Paul. Je cite le passage où il s'insurge contre cette liaison sordide. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Fin de citation. Je continue notre texte. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou au dehors. Verset 9. Ce passage condamne l'union avec une sœur de sang ou une sœur par mariage, née ne serait-ce que du père ou de la mère. Les mariages entre frères et sœurs étaient permis chez les peuples barbares comme les Perses et les Égyptiens, mais non chez les Grecs et les Romains. Toutefois, à Athènes et à Sparte, on avait le droit d'épouser sa demi-sœur. Le fait que dans le livre de la Genèse, les patriarches, c'est-à-dire les ancêtres du peuple juif, contractaient des mariages avec une demi-sœur ou avec deux sœurs simultanément, comme dans le cas de Jacob, prouve que dans ce domaine, la loi de Moïse a réellement innové. La suite du texte interdit les croisements entre grands-parents et petits-enfants, entre neveux et tantes également condamnés par les Romains et les musulmans, mais permis partout ailleurs. La prohibition entre un oncle et une nièce n'est cependant pas mentionnée dans la loi de Moïse. On ne sait pas trop pourquoi. Je continue notre texte. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Verset 14. L'union avec une tante par alliance est interdite. Plus loin, il est précisé que ceux qui violent cette défense restent chargés de leur faute et leur union sera stérile. Cependant, le mariage avec la veuve d'un oncle maternel n'est pas défendu. Je continue. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne lui porteras pas atteinte. Verset 15. Le contraire, une femme avec son gendre, est sous-entendu mais impensable dans la culture hébraïque. Plus loin dans le livre, la loi de Moïse précise que c'est la peine de mort qui est imposée pour ce crime, appelé une chose monstrueuse. Un renversement des lois naturelles. Une expression très forte en langue hébreu, qui ne se retrouve qu'à propos des relations sexuelles avec les animaux. Je continue le texte. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Verset 16. C'est en vertu de cette loi que Jean-Baptiste, dans l'Évangile, a repris le roi Hérode pour avoir épousé Hérodiade, épouse de son demi-frère, Hérode Philippe. L'intégrité de Jean-Baptiste et son audace lui ont d'ailleurs coûté la vie. Même s'il est vrai qu'un peu plus loin, le texte appelle une telle union une impureté, une tache, et déclare qu'elle demeurera stérile, cette interdiction est à tempérer dans un cas précis. En effet, dans le livre du Deutéronome, le cinquième écrit par Moïse, l'auteur ordonne qu'une telle union ait lieu lorsqu'il n'y a pas d'enfant du premier mariage de la veuve, et cela afin de conserver le nom du défunt. Je lis le passage. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Fin de citation. Nous avons donc ici, dans le texte du Lévitique, la règle générale, tandis que le livre du Deutéronome indique une exception pour un cas particulier et dans un but spécifique. Cela m'enseigne que pour bien comprendre l'esprit des Écritures, il me faut bien les connaître, car tout n'est pas dit dans le même passage. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.